Salut, vous allez bien?
Salut, ouais, ça va.
Épisode
Ça va,
3 du AI Engineer Podcast, on a déjà publié deux, c'est vachement régulier. Aujourd'hui, on a Alexis avec nous.
Salut, ouais, enchanté. Et bah, Alexis, du coup, ouais, je travaille dans une startup, ouais, je fais de data chez Jolimois. Je suis data manager pour une organisation qui s'appelle Urban Sketcher, dessinateur sur le vif. Non, je sais pas, enfin, ouais, sur les 5 continents, je sais pas combien il y a de personnes qui pratiquent ça, mais bon, ça c'est intéressant. Tout à l'heure, j'ai vu qu'on allait peut-être parler de le lien entre l'IA et l'art, ça m'intéresse énormément. Et puis voilà, écoutez les gars, en tout cas, enchanté d'être là.
Cool. Ça va, Julien, toi?
Ouais, très bien. Je suis content. On a le podcast qui est sur Spotify maintenant et sur Apple Podcast. Donc, les gens
Ah
qui
oui,
veulent écouter sans la vidéo, sans avoir YouTube qui s'arrête automatiquement dans la poche, vous pouvez utiliser Spotify et Apple Podcast. Donc, voilà, on améliore le pod toutes les semaines. Donc, un jour, on aura peut-être même une musique d'intro.
ah oui, on pourra
pour
faire un petit générique. Le premier thème, c'est un peu tout ce qui est autour de OpenClaw, OpenAI, les swarms d'agents, etc. Du coup, la première news, c'est tout ce qui est autour de OpenClaw et les news qu'il y a eu autour de ça. Je pense que le truc fun au tout début, c'est le AI Impact Summit en Inde, où il y a le président de l'Inde qui a pris les mains de tout le monde et qui a voulu leur lever la main. Et Sam Altman et Dario Amodei, qui sont Anthropic et OpenAI CEO, qui ne sont pas pris la main. Il y a ce mème qui est assez drôle là.
C'est un peu
Excellent.
ridicule d'ailleurs, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça montre un peu la mentalité des gars.
Ouais, je pense qu'ils
Bah,
s'aiment pas trop. Ouais. Mais alors.
ouais, après, l'histoire, c'est que Dario Amodei, il était dans les premiers chercheurs chez OpenAI et il est parti, il a claqué la porte un peu d'OpenAI pour créer Anthropic. Et aujourd'hui, bon, bah, ils sont en concurrence, quoi.
Ouais, mais bon, de là, enfin, je sais pas. Ça montre un peu aussi les mentalités de
Ah, c'est clair.
profil, en fait.
Ouais, c'est
Bon,
un
voilà,
mec.
ça c'était fun pour démarrer. Je pense que la suite, c'est Peter Steinberger qui a rejoint cette semaine, du coup, OpenAI, qui s'est fait racheter par OpenAI, on va dire, et OpenClaw s'est fait racheter ou se fait héberger dans une fondation chez OpenAI.
Ouais, c'est de la couille ailleurs en fait. Hein. Ils l'ont recruté finalement. Donc ils ont recruté la hype et ils ont ouais, mis OpenClaw sous une fondation. Moi, je pense qu'ils essaient de rattraper le retard qu'ils ont sur Anthropic. Ils ont, à mon avis, ils ont racheté la marque, qui est quand même un gars qui, à mon avis, qui a une vraie vision de produit. Je pense que c'est intéressant, même si c'est, on va dire, comment dire, en termes de sécurité, c'est pas ouf. Je voyais ce matin d'ailleurs sur Hacker News que quelqu'un qui avait fait une recherche, le plugin numéro 1 téléchargé sur OpenClaw, c'est un malware. Voilà. Donc à un moment donné, en fait, il faut installer un truc et ça doit pointer sur une URL et le truc grave tous tes secrets, etc. TKSSH, voilà. Ça
Mais
donne un peu.
ça les envoie où?
Ça, je sais pas. J'ai pas
Ouais.
regardé le détail. J'ai juste vu la news. J'ai trouvé que c'était assez marrant.
Vous avez analysé un peu comment ça s'est passé? Je veux dire, le gars, il est parti de quoi? Il avait déjà une audience ou pas? Il était déjà connu? Enfin, le fait qu'il ait lancé le produit, que ça ait pris comme ça de manière virale, qu'est-ce qui a fait que ça a autant marché, à ton avis?
Je pense qu'il y a plein d'histoires. Le truc, c'est quand même, le gars, il est solo founder depuis longtemps, donc c'est lui, là. Et en fait, bon, ça, c'est quand tu vas sur sa page GitHub, tout le monde dit, ah, ça se fait pas un jour, et le mec, il a fait plein de produits, c'est un de ces produits-là qui a marché, blablabla. Bon, il n'empêche que il avait développé ça, qui est genre PDF SDK, qui est un truc qui permet de build des PDF. Et ça, c'est sa première startup, et ça, il l'a vendu. Il avait fait un exit sur ce truc-là. Et du coup, il était parti un peu en retraite. Pour ensuite, quand il a dit, je suis sorti de ma retraite et j'ai build plein d'outils. Et bon, bah, OpenClaw est celui qui a pris, quoi.
Mais il avait déjà une audience, le gars. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti de zéro.
Bah, je pense qu'il avait déjà un peu une audience, ouais.
Okay. Et les facteurs qu'on fait que ça ait pris, selon vous?
Je pense
Je
que ça règle
pense.
un problème, un
Vas-y.
angle mort. Ouais, vas-y, excuse-moi.
J'allais dire, je pense qu'il y a, de mon point de vue, c'est un peu ce qu'on a déjà dit dans les épisodes précédents. Je pense qu'il y a le truc qui est le personal assistant. Je pense qu'il y a de ça, qu'il y a un truc qu'on ne voyait pas chez Anthropic, chez OpenAI. Je pense que Meta, ils ont essayé de faire ça, mais ils ont été très nuls. Genre sur leur bot dans WhatsApp, ils auraient pu build OpenClaw en fait depuis WhatsApp, ils auraient pu réussir à le faire derrière.
Ouais.
Et je pense que c'est ce qui a pris aussi sur OpenClaw, c'est que c'est ouvert. T'as un truc geek où tu peux le build toi-même, tu vois le truc qui se build automatiquement et c'est autour des agences et dans la hype. Et le fait que tu puisses y interagir depuis tes messageries perso.
J'ai l'impression que c'est ça, non? Surtout d'avoir Telegram, d'avoir ton bot dans d'avoir donc l'autre code dans Telegram, en gros, qui est ultra
Ouais,
bien.
je pense que c'est l'idée. Ouais. Pour moi, il y avait aussi une histoire d'image. Je pense que c'est tout le monde le sentait, ce truc-là. Mais étant donné que c'est quand même un truc, ouais, en termes de sécurité, je trouve que ça reste un problème qui n'est pas encore totalement réglé.
Ouais.
Et je pense qu'en fait, bah, c'est bien que ce soit un mec, tu vois, un random qui s'en occupe, entre guillemets, si c'est la bonne vision. Mais
Ouais.
Parce que même Joyeux, Cloudflare a balancé des templates là, par exemple pour pouvoir déployer ça dans des lambda Cloudflare. Ouais, ce truc-là, c'est ouf. Ouais.
Bah, il est passé rapidement de 7 000 à
200 000, un truc comme ça. Ouais.
37 000 en
En un
2 jours,
mois.
et après de 40 000 à 200 000 en un
En
mois,
un mois,
un peu moins d'un
en
mois.
20 jours.
La courbe s'infléchit.
Ouais.
Ouais. Mais moi, ouais, même sur l'histoire là, de Cloudflare, en fait, personne n'assume le fait que ça soit quand même un truc qui soit potentiellement non sécure, etc. Ça reste, je pense, le problème numéro un à régler.
C'est ça le truc de Cloudflare?
Non, non, non,
Ah.
non, c'était un autre sujet. ils ont déployé un. Tu peux mettre OpenClaw, ouais, tu vas le trouver.
Moltworker.
Moltworker. Ouais. Mais à la fin, c'est marqué, attention, c'est pas sécure, c'est un truc de recherche.
Ouais.
Faites ça, vous risquez péril, ceinture bretelle.
Ça, c'est
Ça va,
assez
ça.
intéressant parce que, bon, dans le contexte de l'entreprise, là, je le vois, il y a tout le monde qui est quand même un peu flippé de, bah, ça peut faire n'importe quoi, ça peut se connecter à la donnée, ça peut leaker, whatever. Bon, on va dire dans le contexte de l'entreprise. Mais là, sur OpenClaw, c'est le personnel et agent, et t'acceptes de mettre un tout petit peu plus de limites, même si tu dis, OK, ça va tourner dans ce sandbox, je vais faire tourner sur une VM, je vais faire ci, je vais faire ça. À la fin, à un moment, tu veux le connecter à tes systèmes, tu vois. Parce que sinon, ça n'a pas
Oui.
d'intérêt. T'as envie de le connecter à ton email, t'as envie de le connecter à ton GitHub, t'as envie de le connecter à un système perso, parce que sinon, il n'a aucun intérêt comme personal agent. Donc, au bout d'un moment, tu baisses juste ta garde et t'acceptes le truc, quoi.
Bah comme CloudCode, vous travaillez encore sur le mode YOLO de CloudCode et Codex?
Moi j'aime bien le plan, donc ouais, je travaille beaucoup avec. Non, je suis pas en mode YOLO. Ouais. Non, non,
Ouais, moi, je fais
j'ai.
pas YOLO. Et du coup,
Moi, je
ça me
les.
fait rebondir avec ça. Mais vas-y, Julien, c'est un truc.
Non, moi, je les ai enlevés, mais sur une VM. Donc, j'ai isolé. C'est le seul compromis que j'ai trouvé.
Ouais. Il y a
Ouais, donc
Anthropic qui
ils
a
avaient
sorti cet
plus.
article hier, qui est l'autonomie des agents en pratique. Et il y a un graphe qui est intéressant, qui est le Cloud Code Auto-Approve Rate by Experience. Et donc, il montre, en fonction du nombre de sessions que tu as fait précédemment, quel est ton auto-approve que tu acceptes. Et donc, en gros, ce qu'il montre, c'est que plus tu as fait beaucoup de sessions, plus tu vas avoir tendance à laisser Cloud Code Auto-Approve, ce qui a du sens.
C'est la trust, quoi, la
Ouais.
confiance qui se construit.
Et ce qu'il montre aussi, c'est que plus tu as fait des sessions, moins tu interromps Cloud Code aussi.
Ouais, c'est intéressant.
Ah si, il y a aussi ça qui est intéressant. C'est genre, combien de temps tourne Cloud Code avant que tu l'arrêtes? Et plus le temps passe, plus tu vois que bah ça dure longtemps, quoi. Et plus les modèles arrivent, plus le temps. Bon, on a pas assez de recul sur Opus 4.6, mais quand on est passé de Sonnet 4.5 à Opus 4.5, on voit qu'il y a quand même une augmentation significative du temps des tâches.
Mais c'est marrant, je sais pas, je m'attendais à avoir un truc un peu plus linéaire, quoi. Je sais pas. C'est bizarre que ça varie autant. Est-ce que c'est impacté par l'heure? Parce qu'à l'échelle de l'outil, c'est bizarre que t'aies autant de variations, quoi. Je pense que c'est impacté par leur release en interne, les patchs qu'ils font, quoi. Je sais pas. Mais comment ça me semble bizarre que ça varie autant, quoi.
Mais c'est assez linéaire là, non? Enfin, comment ça?
Bah genre entre le 1er janvier et le 1er février, tu perds 20%.
Ah, ici, tu veux dire?
Ouais, même
Ouais.
après, là tu vois, entre
Ouais,
mars.
là.
Tu vois,
Ouais,
exactement.
c'est juste à la release du modèle. Ouais,
Ouais, là c'est peut-être des features où ils ont fait des trucs où ils ont pété un truc et les gens ont moins de trust.
ou juste un effet release du modèle, et du coup, à chaque fois qu'ils réalisent un nouveau modèle, les gens sont pas contents.
Ouais.
Je pense que ces graphes, ils montrent à quel point, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que les gens utilisent Cloud Code hors de Cloud Code.
Ouais.
Parce qu'ils ont toutes
Après,
les données avec ça, quoi.
ouais. Après, pour moi, c'est aussi un enjeu de rentabilité. Enfin, on est un peu comme Apple, quand tu vas pas séparer le hardware du software, bah, ils sont dans cette même logique-là, quoi. Aujourd'hui, comme je crois que ça fait quoi? Ça fait 1
2,5 milliards.
milliard là, ouais, 1 milliard sur les revenus d'Anthropic.
C'est 2,5 milliards, je pense, les souscriptions.
Ouais. J'ai eu aussi là 4% des commits sur GitHub en public fait par CloudCon. Je sais pas ce que ça donne si tu mettais le privé. Et ils prévoient 20% fin d'année. C'est ce qu'on appelle ouais, c'est un bon produit, quoi. Tu vois, pour un truc aussi jeune.
Ouais, et ça, c'était hier, c'était les 1 an de Cloud Code. C'est ouf de se
Ouais,
dire qu'en
t'as
un an,
vu.
ils ont reach 2,5 milliards.
Ouais, c'est
Ouais.
énorme. Et question, les équipes en général, comment est-ce qu'elles gèrent les abonnements Cloud Code? C'est un par personne, c'est au niveau de l'entreprise, c'est des bundles ou c'est des accounts qui sont partagés? Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, t'as une offre entreprise, ouais. T'as une offre entreprise Anthropic. Et après, du coup, bah, t'as la partie enterprise qui. Bah, c'est pas Cloud Code, en fait. T'as la partie Cloud. Et dedans, d'ailleurs, je crois, là, ouais, via la marketplace AWS. Et après, du coup, tu prends des bundles. C'est des bundles de 5 places, je crois. Puis après, tu peux les prendre de manière itérative. Enfin, tu peux en ajouter autant que tu veux. Et dedans, Cloud Code est bundle dedans, avec pareil des limites en termes de tokens, etc. La même logique que ce que tu as quand tu le prends tout seul.
Ok.
Et après, sur la partie enterprise, bah, tu as des features au niveau enterprise. Tu peux rajouter des guardrails, tu peux créer un peu comme des GPTs partagés, etc. Enfin, une base de
Je pense que
connaissances.
tu as aussi le truc en entreprise, tu peux, je crois, créer des environnements, forcer les gens qui peuvent pas le lancer en local, que ça tourne dans un remote, etc., je pense, et tout ça.
Est-ce que vous voyez des gens non tech qui commencent à récupérer des abonnements comme ça à travers l'entreprise?
C'est-à-dire?
Entre...
Bah, des gens qui savent pas coder, qui commencent à aller dans le terminal, qui ouvrent juste Cloud Code, puis qui commencent à faire des choses comme ça.
Moi, de mon côté, en tout cas, non. Mais je pense que, à part si tu pars du principe que Cowork, c'est pas Cloud Code,
Ouais, moi ce que
et
je vois,
même
c'est par
avant.
exemple Claire, elle fait pas mal de trucs, mais elle l'utilise via Cloud Desktop slash Cowork.
Ouais, voilà, c'est sûr. Ouais.
Ok, donc avec
C'est
une UI.
un onglet code ouais, dans Cloud Cowork.
Ouais.
Enfin, Cloud
Je sais pas si vous
Desktop,
avez
c'est pas
testé
Cloud Desktop.
en ce moment ce qui fait le buzz entre guillemets, c'est l'app Codex, 5.3 et Codex. Et honnêtement, ils ont fait une app qui est vraiment clean, qui marche plutôt bien. Le modèle, après, c'est question de personnalité, qu'est-ce que tu préfères sur les modèles et tout, et ça c'est assez subjectif. Mais je trouve qu'ils ont fait une assez bonne app, et c'est assez intéressant leur vision qui est post-IDE, quoi. C'est genre, ils ont recréé une app pour coder, dans laquelle tu peux faire un peu des trucs que tu peux faire dans l'IDE, mais c'est pas un full IDE, quoi.
Est-ce que ça
J'ai
rend?
bien aimé aussi ouais, l'interface, ouais, elle est assez intéressante en tout cas. C'est assez nouveau en tout cas parce que c'est un truc qui ressemble à rien, donc, enfin, rien de connu. Je ne sais pas si tu l'as vu toi, Julien. Parce que j'ai
Non,
vu
j'ai
la
pas
dernière
testé.
fois que tu t'intéressais aux interfaces. J'ai pas eu le temps de finir la
Ouais,
dernière
exactement.
épisode, mais ouais.
En gros, je m'intéressais aux interfaces dans le sens où. Mais je pense que c'est une erreur d'ailleurs, parce que les interfaces, elles vont mourir.
Moi, je pense qu'elles
Et
vont mourir. Ouais. Moi, par
du
exemple,
coup.
j'utilise plus l'IDE. Pas depuis peut-être 2 3 semaines. Je me suis rendu compte que enfin, finalement, c'est une histoire, comme tu disais, une histoire de trust. Est-ce que j'ai vraiment besoin de regarder mes work trees tout le temps? Pas nécessairement, quoi.
En fait, j'avais le postulat que tous les gens allaient commencer à être avec des agents. Et donc, du coup, ils avaient besoin quand même de vérifier l'output de l'agent.
Ouais.
Et en fait, par exemple, je sais pas, tu as un docteur, il va devoir visualiser à sa manière l'output de l'agent. Je sais pas, ça peut être des médicaments à prescrire ou j'en sais rien. Et du coup, l'hypothèse, c'était que tu as besoin d'un IDE pour chaque workflow. Mais en fait, j'ai réalisé que bah, comme moi, je regarde de moins en moins le code qui est généré par l'outil, il n'y a pas de raison qu'un avocat, un médecin, il regarde de moins en moins l'output qui est sorti.
Oui, je suis d'accord.
Et voilà, d'où je pense que les interfaces vont mourir.
La,
Ce qui est un
la...
peu vertigineux d'ailleurs.
Ouais,
Pas du software. Qu'est-ce que tu peux vendre du coup? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce qui est vendable? C'est là, le code, il est gratuit quoi. Ça, c'est un peu ce qui m'obsède aussi un peu en ce moment.
pas que le code, hein, je pense. Même tout le scaffolding, tout ce qui est workflow, même tout ça. Je trouve que maintenant, même c'est même intéressant des fois d'arrêter même de guider par étape quand tu fais, par exemple, tu demandes à un agent de travailler. Tu lui donnes le but, tu lui donnes pas la manière de le faire, et en règle générale, des fois, c'est, enfin, la plupart du temps, c'est quand même plus. Donc même
Ouais.
ça commence à devenir ingéré. Enfin, tu vois, ça devient avalé également par l'agent, par le modèle.
Ouais. Donc si tu fais une régression, tu tires la courbe dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce qui se
Oui.
restera dans la partie
Ouais, qu'est-ce qui
implémentation?
reste? Ouais, c'est une bonne question.
Il restera pas grand-chose, quoi, je pense. Et ouais. Et du coup, ça, c'est assez vertigineux pour le coup, je
Je
trouve.
pense que sur l'interface, moi, il y a un truc que je disais à un moment, c'était. Je vais retrouver ce que je veux dire. Ouais, sur les interfaces, mon point de vue, c'est qu'il y aura toujours des interfaces qui vont exister. Parce qu'en fait, l'avantage de l'interface pour les users finaux, c'est que tu donnes une expérience. Et je pense qu'il y a des trucs où t'as pas envie d'avoir une expérience. Genre, je veux réserver un ticket de train. Bon, l'expérience, ça peut être, je demande à un chatbot et ça le fait très bien. Mais je veux acheter un truc de décoration pour ma maison, je veux acheter des habits. Et il y a deux types d'expériences que d'achat, je pense. Il y a l'achat, je veux un t-shirt blanc et puis très bien, let's go. Et là, je veux être dans une marque, je veux avoir l'expérience d'achat de la marque et ce genre de truc. Et je pense que là-dessus, tu auras toujours besoin d'une interface, tu auras toujours besoin d'une boutique, tu auras toujours besoin d'avoir un truc qui te crée une connexion et tout le marketing qui est autour, quoi. Et donc, je pense que ça dépend des personnalités. Mais pour ça, je pense qu'il y aura toujours besoin d'avoir des interfaces finales.
Mais il y a le but de beaucoup de marques, c'est de la customisation, non? Et du coup, là, on n'arrive pas dans un monde où tu as l'ultra customisation. Si tu as ton agent qui te crée ta propre interface juste pour toi. Et du coup, cette interface, vu qu'elle est créée par ton agent qui te connaît déjà, avec les détails qui te vont bien, est-ce que ça vaut encore le coup de la délivrer comme dans ton produit?
Peut-être.
Peut-être, ouais. J'ai pas vu d'ailleurs ce que ça donnait les MCP apps. Je sais pas si vous avez vu passer ce truc-là.
J'ai pas mal suivi de l'extérieur parce que je connaissais les. Enfin, j'avais déjà rencontré les mecs qui font Alpic, qui sont ceux qui ont beaucoup parlé. C'est une boîte française qui fait des MCP apps. Donc j'ai un peu suivi. En fait, j'ai l'impression que c'est. Pour accéder au web, avant, on utilisait un navigateur web. Et les MCP apps, c'est juste une manière de rewrap-up le navigateur web dans un chat pour redonner l'expérience navigateur web, mais via le chat.
Ouais, clairement, clairement, bah, même beaucoup de personnes qui, moi, par exemple, j'ai des, enfin, il y a certains MCP que j'ai arrêté d'utiliser et je me suis juste fait des agents avec des markdowns avec des co-API, quoi. Enfin, ça fonctionne, enfin, de la même manière, quoi. Il y a pas de, je suis même pas sûr que ce soit un truc qui va perdurer dans le temps, mais bon, après, pourquoi pas.
D'ailleurs, sur les MCP, il y a ça, je ne sais pas si vous avez vu, donc Google
Ouais.
qui a annoncé Web MCP. Donc l'idée, c'est de pouvoir appeler des MCP depuis ton browser, quoi. Et il y a tout le protocole. Et il y a une autre boîte qui a drafté le truc à côté. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Parce qu'il y a quand même des sujets, il y a toujours eu des sujets de sécurité par rapport à l'HTML et l'accès à ton poste pour pouvoir faire des choses. Donc ça casse un peu les choses. Ça casse un peu toute la barrière qu'on mettait entre le browser et le poste des gens, quoi.
Et c'est quoi du coup les usages? J'ai vu passer ce truc-là et pas mal de personnes qui disaient que c'était un peu un truc de ouf, mais j'ai pas creusé en fait. Qu'est-ce que ça permettrait comme use case qui, enfin, tu parles plutôt d'un aspect sécurité ou?
Bah, bon, là, tu vois, ils disent, tu peux l'utiliser pour Customer Support, e-commerce, travel. Donc, user pourrait plus facilement récupérer quel flight ils veulent. Et je sais pas où est-ce que tu
Donc ça permet de
branches ça.
contrôler finalement ton web browser comme un MCP, faire des actions à partir de ton agent de manière plus simple, peut-être ça. Ouais.
En fait, c'est comme si tu enlevais ton front et tu parlais directement avec le back du.
Exactement, ouais, je pense que c'est un peu l'idée.
Et du coup, ça kill aussi tous les trucs de scrapping.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Oui, exactement. Du coup, on peut basculer sur l'histoire du Markdown Cloudflare que j'avais mis de
Ouais.
côté. Ça, c'est assez intéressant. Bon, là, il y avait l'annonce qui était un peu plus marketing. Je pense que ouais, ils plaident un peu pour leur paroisse, que vu le volume. Ouais, ouais, c'est peut-être pas celui-là. Enfin, peu importe. Ouais, voilà, celui-là. Et donc, l'idée, c'est que tu as quand tu descends, je crois qu'ils introduisent un nouveau header.
Text Markdown.
Ouais, text markdown, ouais. Et dedans, tu as même des flags hein, qui te permettent de. Ouais, AI train, yes, tu vois, search, yes, AI input, yes, etc. C'est-à-dire que tu vas même pouvoir balancer du contexte. Et en gros, eux, ce qu'ils voient, c'est que je pense que, premièrement, c'est que bah, vaut mieux servir un markdown. Donc, en gros, ça convertit le HTML en markdown. Et comme, en fait, bah, vu le trafic qui est servi par Cloudflare, vous imaginez bien que eux, ça les intéresse parce que forcément, balancer du HTML qui est juste du code, on va dire, qui ne sert à rien, ils vont juste le compresser. Et ils t'envoient juste le markdown. Et du coup, bah, pour les agents, c'est plus simple de naviguer là-dedans que de scraper du HTML, etc. Donc, pour moi, il y a un problème de tuyaux, c'est-à-dire que ça permet de réduire les tuyaux et de construire donc un nouveau web, en fait, un web qui est dédié pour les agents. Que je pense que, je ne sais plus, j'avais vu le trafic, mais c'était genre énorme, genre 40% du trafic mondial qui était déjà, on va dire, non humain, entre guillemets. Je ne sais pas si c'était que des agents.
Ouais.
J'imagine qu'il y a beaucoup de scrapeurs, etc. Et je pense que ça va ne faire qu'augmenter.
Et ça marche avec n'importe quelle page, comme ça.
Ouais, c'est ça qui est
Ça.
ouf. Ouais. Alors, je pense qu'il faut quand même que tu sois sur Cloudflare et que ton
Ouais.
DNS soit proxifié par Cloudflare.
C'est stylé.
Mais c'est assez stylé. Ouais.
Ça me fait penser à. Il y a deux choses. Il y a, par exemple, sur nous, pour la doc, on utilise Mintify. Et Mintify, il te donne déjà un truc qui est tu peux copier ta page en Markdown. Alors, je crois que si tu fais genre LLM. Il y a
LTXT.
une URL, je ne sais plus laquelle c'est, où tu peux récupérer le lien de ta page directement
Ah, yes. Bah,
en
t'as
Markdown. Ah oui,
du
c'est ça.
Markdown.
US
Ouais,
Markdown.
super. Ok.
Et après, tu peux naviguer sur toutes tes pages de doc. Et pareil, celle-là, je peux la voir en Markdown. Donc, tu as un lien où tu as toutes les pages déjà de ta doc en Markdown. Donc, ça existait déjà un peu sur la doc. Et ça me fait penser à un autre truc que j'ai vu cette semaine. C'est Anna Archive, je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Donc, Anna Archive, c'est un truc
Ah, yes.
qui scrape Internet et qui garde des archives d'Internet, en gros. Et ils ont fait un lm.txt, et dans leur lm.txt, ils ont mis ça. Donc ils ont dit, si vous êtes un robot, lisez ça. Du coup, on a des
C'est le truc
captcha.
à la fin qui est rigolo.
Plutôt que d'utiliser les captcha, donnez-nous de l'argent. Oui.
Oui, c'est ça.
Si
C'est
vous
le
avez
truc. Et
accès
à
à
la fin, il y a le
une
lien.
méthode de paiement et que vous
Ouais.
êtes capable de persuader un humain, considérez faire une donation. Cette donnée évitera d'utiliser les captcha. Comme ça, vous pouvez directement utiliser l'API, etc.
Ça, c'est très rigolo. Tu sais, c'est comme les gars qui mettent des instructions LLM dans leur CV.
Ouais, sur
Je trouve ça
LinkedIn.
cool.
Ouais.
Ouais, sur LinkedIn, je trouve ça
D'accord.
cool.
Ensuite, qui est parti? Je l'ai pas lu, je sais pas
Yes.
si.
Non, non, en fait, il disait que. Bah, ça revient à exactement à ce qu'on disait juste avant. C'est que lui, en gros, il avait je sais plus, un device qui aurait donné, je sais plus ce que c'est, le battement cardiaque. Ou quoi. Et en gros, il a vibe-codé un front qui lui fait son propre dashboard. Mais le problème, c'est qu'il a galéré, il a dû voilà, se connecter à l'application, etc. Et du coup, à la fin, il finit en disant, voilà, il est surpris par le nombre d'applications qui fournissent toujours une interface, alors qu'en fait, il devrait juste fournir la data. Et donc, du coup, ce qui fait que les applications, le software, ça devient juste des capteurs. Et en gros, après, donc ton agent personnel capte la donnée et te fait ton dashboard perso à la demande. Et puis c'est vrai que quand tu regardes, je sais pas si vous avez déjà testé, mais j'ai essayé avec un ami qui faisait il disait à son travail, il faisait des dashboards tableau. J'ai dit, bah attends, on va essayer. Je lui dis, voilà, fais le dashboard, il m'a décrit ce qu'il faisait au travail. Et puis ça nous a sorti un truc incroyable. Beaucoup mieux que n'importe quel dashboard, en fait. Et donc voilà, donc c'était un peu le post un peu autour de ça, au sujet d'Inter.
Ces tweets sont toujours très intéressants parce qu'il y a de la matière. Personnel, j'aime bien. D'ailleurs, son YouTube est super intéressant. Enfin, si vous êtes déjà allé voir, il fait des deep dives des fois de plusieurs heures. À l'époque des démarrages d'LLM, c'est rafraîchissant, regarde.
Récemment, il était assez content parce qu'il a recodé, enfin, il a réussi à recompacter genre les premiers GPT en genre 270 lignes de Python, un truc comme ça. Et il dit, je pense que je suis arrivé à la version la plus compacte possible de qu'est-ce qu'un GPT. Et
Rigolo.
quelqu'un qui répondait à son poste, genre, ça devrait être encadré dans un musée
Ah
de
oui.
l'histoire de l'informatique.
Ouais, je sais pas si à un moment donné on va en parler, mais ouais, tiens, ouais. Je parlais, j'avais donc j'ai écouté ouais, le podcast Lenny là avec Boris Tcherny et ouais, il faisait des parallèles avec la presse de Gutenberg, ouais. C'était assez intéressant.
Ah oui.
Il disait qu'en 1400, il y avait des archives qui avaient été retrouvées et d'un bouquin qui existe, c'est un vieux truc, hein, et en fait, ils interviewaient dans ce bouquin-là, limite, enfin, un peu en mode interview de l'époque, tu vois, un scribe, pour dire alors, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Ça va vous foutre au chômage, etc. Et donc, ouais, voilà, ils faisaient le parallèle, hein, du changement et de l'impact que ça a eu sur le monde. C'était assez intéressant. J'avais pas noté grand-chose de plus, mais ouais, il y avait. Ouais, bon, bah, lui, il le dit, de toute façon, ouais, tout son code est écrit par Claude Cohen. Il a noté des stats intéressantes, je sais pas où vous en êtes, parce que j'avais fait à peu près le même exercice hier. Il push à peu près entre 10 et 30 PR par jour. C'est intéressant, même juste pour le track record. Moi, j'ai vu,
Ouais.
j'en fais 10 fois plus. Par contre,
Tu fais
je
300
pense
paires
que la
par jour?
moitié. Non, moi, pas autant de PR, mais je pense que j'en fais. J'ai regardé, je crois que depuis le début de l'année, j'ai fait 400 commits. Mais par contre, je pense que la moitié, c'est sur Claude Code. Enfin, pour améliorer le cloud, tu vois, les markdowns de Claude Code. Le workflow. C'est une grosse partie de mon boulot, je sais pas pour vous, mais c'est optimiser le workflow. Et ça, il n'en parlait pas, mais je pense que lui, il passe beaucoup de temps à améliorer juste Claude Code, un autre sujet.
Bah, c'est son métier, non? C'est son job.
Bah oui, c'est ça. Ouais. Et
Après, je crois que c'est justement le gars de OpenClaw qui disait, au fait, tu peux rapidement venir, enfin, tomber dans une boucle d'optimisation de ton outil pour créer l'outil, et du
oui.
coup, tu peux facilement aussi être perdu dans ça, et du coup, être complètement détaché de, en fait, le but final, c'est de produire voilà, c'est de faire ton travail, quoi, et produire
Exactement.
un outil. Et donc, du coup, tout ce qui est justement les swarms d'agents, etc., tu peux facilement te perdre là-dedans pour au final. Pas forcément énormément de valeur ajoutée par rapport à ce que tu dois livrer à la fin. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il racontait qui était intéressant? Ah oui, la latent demand, ça c'était intéressant. C'est qu'en fait, bon, c'est un truc qu'on a tous vu, c'est le point numéro 4. Ils se sont rendus compte en fait qu'en interne chez Anthropic, bah, c'est ce que tu disais, les non-technicals. Alors chez eux, tout le monde est technical, hein. Tout le monde sait coder en gros, même le CFO, il code. Mais ils se sont rendus compte que les gens faisaient autre chose avec. Et ils ont une espèce de Slack interne où les gens posent des questions, etc. Et ils sont très challengeants. Et c'était, mais ça peut être n'importe quoi, genre le mec qui gérait sa compta, enfin, tu vois, des trucs, sa compta perso, il y en a qui, je sais pas, qui commençaient à gérer, enfin, des trucs qui n'avaient rien à voir avec le métier d'engineering. Et c'est là où, en fait, il y a eu l'idée de déployer Cowork, qui a été développé, ouais, en un temps record, je sais plus comment il en parlait, mais je crois que
Ouais,
c'était
c'est 10
codé
jours,
en
je
une
crois.
semaine.
10-20
Ouais,
jours.
c'était vraiment très, très rapide. Donc ça, c'était intéressant. Un truc aussi, le point numéro 6, c'est, alors lui, il plaide pour sa paroisse, j'imagine, mais quand il le disait, je pense qu'il ne le disait pas dans ce sens-là, c'était de dire, il faut que vous donniez en fait des tokens illimités, parce qu'en fait, c'est ça qui unlock comment dire, la créativité. Et moi, je suis très souvent bloqué par mon compte, soit la semaine, soit sur mon compte de token, sur les plages. Je suis très souvent bloqué, j'en consomme trop. Et je voyais quelqu'un qui disait la dernière fois qu'on va sans doute indexer maintenant on va dire le volume de tokens que tu pourras donner à tes meilleurs développeurs versus est-ce qu'il faut que je recrute quelqu'un à la place? Je sais pas si vous me suivez, mais
Ouais.
parce qu'à un moment donné, de toute façon, là, on sait très bien que si vous passez en mode on-demand, en fait, on paye beaucoup moins cher l'abonnement à 100 ou 200 balles que ce que ça coûte si on était en on-demand, mais pas sur un facteur x2, on est plutôt à x10. Et à un moment donné, ça va faire un peu comme les abonnements de Netflix, il va y avoir un truc qui va remonter à la hausse. Une fois que tout le monde sera complètement vendor locked, il y a une forte chance. Alors peut-être qu'ils vont réussir à faire baisser le coût, etc., avec l'industrialisation des data centers, etc. Mais comme la demande grandit, 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 il y a quand même une forte chance que le prix augmente à un moment donné. Donc c'était intéressant, en tout cas, ce qu'il disait là-dessus. J'avais trouvé que
Le
c'était
prix
pas faux.
il va pas justement chuter. Enfin, je parle avec les modèles open source qui ont quelques mois de retard. C'est-à-dire que cet
Sans
été, les
doute,
modèles
ouais.
open source, ils vont être incroyables.
Peut-être, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi ça qui va rentrer en ligne de compte.
Moi, je
Après,
crois que
c'est
le prix des
bon.
Frontier Labs, il va pas chuter. Parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est que le prix de l'équivalent de cloud sonné d'aujourd'hui va forcément chuter. Mais le problème, c'est qu'on va avoir des modèles qui seront meilleurs, qui auront plus de prix à l'input et à l'output. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Genre, dès que Opus est sorti, nous, sur Nao, bah, nos coûts ont explosé parce qu'en fait, les gens sont passés sur Opus. Et donc, potentiellement, ça produisait moins de tokens, mais en fait, ça coûtait plus cher. Donc, en fait, de mon point de vue, je pense que, vu qu'on va avoir que des modèles qui seront de mieux en mieux, les modèles qui seront de mieux en mieux seront plus chers que les modèles qui sont moins bien. Et on va pas garder un prix fixe, quoi.
Ouais, ça a quand même une hypothèse forte, c'est-à-dire que ton incrément de modèle à chaque fois, il est toujours aussi haut, quoi.
Ouais.
Et je suis pas sûr que ça, c'est je trouve ça assez fort comme hypothèse. C'est pas certain, je pense, que les modèles continuent à s'améliorer,
En fait,
peut-être.
ouais, ça c'est vrai. Mais là, du coup, le truc qui peut nous sauver, c'est si l'open source catch up. Parce que s'ils catch up pas, on est gatekeep derrière des API et ils peuvent faire ce qu'ils veulent derrière les API, tu vois.
Ouais,
Ça, c'est juste.
carrément. Et puis, ouais, le fun fact, le point 7, c'est pareil, il a quitté Anthropic pour Cursor avant de lancer CloudCon. Et il est reparti chez Anthropic 2 semaines après.
C'est trop.
Parce qu'en fait, ils trouvaient pas la mission en fait qu'ils pouvaient voir. Voilà, c'est un peu lui expliquer son truc. Voilà, ils
Ouais.
ont l'air d'être prêts. Alors après, ça peut peut-être lier sur l'histoire de la Constitution. Là, j'avais écrit un billet de blog là-dessus, mais
Ouais.
ouais, les mecs ont l'air assez mission driven. C'est ce qu'ils racontent, mais
Assez
ouais,
chaud de
c'est
rentrer à Anthropique maintenant. J'ai un ami qui fait le process. Il est déjà à son troisième interview sans avoir parlé à qui que ce soit.
ouais.
Que des voix de machine et des trucs de 4-5 heures d'interview. Enfin, de test, quoi.
Donc Amodei avait, ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais, j'imagine qu'ils sont très automatisés parce qu'il y a beaucoup beaucoup de demandes, on a vu
Exactement.
les packages, etc. Donc Amodei, parce que c'est le premier lien, enfin non c'est le deuxième, qui avait créé un article qui est très long, un
Ouais.
essai qui s'appelle L'adolescence de la technologie, où en gros il explique bah, tous les risques, tous les problèmes que les ce qu'ils appellent la GI, l'intelligence ultime, bah, on va dire peut faire planer, que ce soit les risques, je sais pas moi, de création de virus ou autre. Et en fait, il agite un garde-fou qui est la clause constitution. Si tu peux l'ouvrir, c'est assez intéressant. Donc c'est un peu, on va dire là, qu'est-ce que voilà, ils ont créé une espèce de constitution. Donc et en fait, c'est un peu on va dire la. Donc ils ont recruté les. Alors ils ont plein de profils hein, chez eux. Ils ont des philosophes, des économistes, etc. Pour penser à ça, l'idée c'est en gros qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas mal, qu'est-ce qui est mal pour eux, etc. Qu'est-ce que Claude doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, etc. Moi ce que j'écrivais c'est que je trouve que c'est intéressant, c'est bien de l'avoir, mais c'est bien, enfin c'est mieux tu vois d'en avoir une que de ne pas en avoir une. Mais en vrai c'est toujours problématique, c'est comme avec, moi je faisais le parallèle avec Facebook, avec l'algorithme, hein, c'est que c'est toujours 10 mecs dans un garage dans la Silicon Valley, dans leur bulle, avec leurs valeurs, leur modèle de pensée. Qui va décider finalement de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien à l'échelle du monde. Et puis après, ben, si on redescend même au niveau entreprise, je pense que là où c'est le sujet elle-même, pour par exemple dans le cas d'une entreprise, c'est qui décide du contexte. Quand par exemple, tu as un agent qui va décider va te répondre, par exemple, je sais pas, dans une banque, est-ce que tu as le droit de poser une question, tu vois, sur est-ce que mon produit il est bien, etc. Est-ce que toi, tu vois, tu es agent dans je sais pas, dans une agence bancaire, est-ce que qui va contrôler l'agent, qui va contrôler le contexte? Ça donne énormément de pouvoir. Donc je pense qu'à terme, ça va être un sujet de gouvernance d'entreprise, même très très large. On va sans doute avoir mettre. Moi, j'imaginais hein, tu vois, un chief context officer, quelque chose comme ça, hein, quelqu'un qui soit vraiment dédié à ça. Et avec, ouais, pas que de la techno, hein, c'est vraiment quelqu'un qui peut potentiellement écrire une constitution en interne d'une entreprise. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Tu veux dire, on va relabelliser les jobs de gouvernance en
Ah
contexte?
oui, peut-être, ouais. Peut-être. La data gouvernance à la mode AI.
Non, mais je suis assez d'accord. Après, il y a une grosse inconnue qui est tout ça, c'est parce que c'est si on essaye de mapper la vision qu'on a des entreprises aujourd'hui dans ce monde agentique, au sens large, si on peut dire agentique, dans le sens où bah, tu as la connaissance de l'entreprise, elle se retrouve parsemée entre Drive, Notion, l'ordinateur des gens, etc. Et tu as besoin d'accéder à tout ce contexte qui vit partout, dans des meetings, dans des documents, partout. Et donc tu as besoin de le rendre à dispo, de le formater, de le mettre à dispo pour des agents. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Ou est-ce qu'il ne faut pas juste reshuffle complètement l'entreprise et faire que tu donnes tout à Anthropic ou à OpenAI et puis c'est réglé?
C'est une question à se poser. Ça va pousser à plein de sujets, ouais, je pense que.
C'est pas les mêmes sujets qu'on a depuis des dizaines d'années autour de la data, non?
Ouais, bah,
Bah si.
centralisation, décentralisation, ouais, qui contrôle la gouvernance, mais qui même qui définit, tu vois, les métriques. On parlait de sémantique layer tout à l'heure. Donc il y a toujours des définitions derrière. Mais là, ouais, on touche à un truc qui est peut-être un peu plus profond. Je
Impactant,
pense pas
évidemment.
que les gens iront se confier à un agent, tu vois, par exemple, dans une entreprise, de leurs problèmes perso. Mais j'imagine, tu vois, je pense pas que, je sais pas, t'es dans une banque, encore une fois, tu vas pas lui demander, alors qu'est-ce que je fais pour ma négo salariale? Mais peut-être qu'on imagine dans un monde où ça sera le cas, j'en sais rien.
Bah, dans un monde où il n'y a plus de travail, ou qu'il y a le revenu universel, t'as pas besoin de faire de négo salarial.
Ah oui, ça c'est vrai. Pour avoir de l'argent en plus.
En votant, c'est ton vote,
En
t'as des.
votant. Ouais. Where data engineering is heading. Ça c'est une bonne question.
Ouais. Oh,
Et
c'est
donc, est-ce qu'il
Jaurès qui a
en.
écrit un article. Bon, il y a 4, 5 points. Bon, pas utiliser l'AI, c'est une mauvaise idée.
Oh.
Ensuite, Data Modeling Crisis and Semantic. Bon, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Hein. C'est le sujet du data modeling est toujours là. Le sujet de créer des sémantiques, dans le sens sémantique layer, metric store, on s'en fout, mais genre juste créer des sémantiques sur ta donnée pour la rendre facilement accessible ou la factoriser, ça a toujours un intérêt, j'imagine. Est-ce qu'on a toujours besoin d'orchestration?
Ça, c'est un bon point.
Ouais, ça c'est un bon point.
Ben surtout quand tu vois OpenFlow. Quand tu vois OpenFlow, quand tu vois. Il y a un truc, je sais pas si vous connaissez ça, là, le 12 factor agent.
Ouais.
Moi, il y a un truc qui
Ouais, qui était
m'avait.
le reflet du 12 factor apps, ouais.
Ouais, c'est
C'est
ça.
ça, en fait.
Il y a un truc qui m'avait explosé le cerveau, c'était en fait de penser les agents comme des orchestrateurs, mais qui sont des orchestrateurs nouvelle génération, en gros. Je sais plus lequel c'est.
D'ailleurs, est-ce que vous orchestrez des tâches, par exemple? Donc, ça, c'est un. Moi, j'ai pas de solution aujourd'hui. Par exemple, imaginons, bah, tu lances une commande. Moi, j'en ai une le matin, par exemple, pour regarder mes Daggerflow. Je le fais tous les matins, mais j'aimerais bien l'automatiser. Finalement, c'est un peu de ce dont on est en train de parler, indirectement, sur le
Ouais.
scheduling.
Non, je fais rien pour l'instant. C'est un truc que je veux mettre dans Nao, qu'on a dans la roadmap Nao, mais je fais pas rien pour l'instant.
Ouais, mais c'est tellement pertinent ce point. C'est que tous nos outils d'orchestrateur, ils sont faits pour des humains. Ils sont designés pour des humains. Et ils sont pas du tout designés pour avoir de l'intelligence en plus qui est dans eux, en fait, qui est capable de réagir, etc.
Parce qu'ils sont très rigides, en fait.
Ultra rigide.
Ouais.
Des très rigides,
Et
ouais.
c'est ça le truc, moi, qui m'avait genre mentalement changé complètement ma personne le truc, c'est que l'orchestrateur, c'était ça. Il y a 60 ans, c'était des if-else, et voilà, c'est tout. Puis après, quand on arrivait dans les DAG orchestrateurs, la Airflow, etc., c'est t'as un event ou un cron qui déclenche un template d'orchestration qui est très figé, avec juste des if ou des skip à des endroits, et t'as juste des fins qui sont déjà connues. Et quand tu fais de l'agent, bah, c'est complètement différent.
Il n'y a plus de
Donc,
flèche.
dans le sens où t'as un event qui déclenche un truc, t'as un orchestrateur principal qui est l'agent le plus. Enfin, le modèle le plus intelligent, et ensuite t'as des boîtes. Et les boîtes, tu peux dire que c'est les tools, tu peux dire que c'est les MCP, tu peux dire whatever, mais c'est des choses qu'il peut faire. Et ensuite, c'est l'agent qui décide le chemin qu'il veut prendre à l'intérieur. Et donc, à la fin, il fait une orchestration de tâches, mais le chemin d'orchestration de tâches est toujours différent. Et c'est un LLM qui décide pour arriver à un goal.
Moi, je travaillais là-dessus cette semaine pour mes trucs, mon workflow de coding. Et j'ai fait exactement ça. En fait, tu as un agent qui est un orchestrateur, qui appelle des agents qui sont des workers, et après, tu as plein de rôles différents. Et en fait, au début, j'avais eu le réflexe de faire comme il y a 50 ans, de faire des if-else dans mon daemon, celui qui est dans le cron, si tu veux. Et en fait, plus ça allait, plus je dis, mais en fait, non, j'ai juste fait un prompt pour un orchestrateur, avec un peu les goals, etc. Et après, c'est lui qui se débrouille à orchestrer tous les sous-agents. Et en fait, c'est tellement plus intelligent, plus flexible. Et t'arrives, enfin, mais du coup, c'est bah, c'est 10 fois mieux. Et en fait, ça, c'était pour mon petit cas d'usage de coding. Mais en fait, pour tous les DAG de data engineering, ça devrait être exactement la même chose, quoi. L'ingestion fail, ok, bah, je change mon schéma ou des choses comme ça. Et ouais, c'est ultra pertinent comme point. Ultra
C'est ce
pertinent.
que racontait ouais, Boris Tcherny ouais, sur le fait qu'il n'y a plus besoin de lui donner une liste de tâches en fait. Il a déjà avalé les scaffolding humains, il sait en fait, il est assez malin pour dire bon bah il y a ça qui se passe, effectivement, bah, faut que j'aille modifier mon modèle.
Du coup, Cron is the new Airflow, non, c'est ça?
Bah ouais, c'est pas loin, ouais. C'est pas loin.
Ouais.
Par
Bah,
exemple,
en
un
fait, dans
truc
les faits, quand tu
que
regardes,
vous
c'est
faites, mais
Mutain. Pardon.
de quoi?
Vas-y, vas-y, vas-y.
Ah non, mais ouais, Edmiten, ouais, Edmond, moi j'ai réfléchi, on a quelques dagues Edmiten, même du mec, c'est hyper rigide, hein, ça casse tout le temps,
Exactement.
c'est vraiment pas, enfin, c'est pas fun à faire, hein, même avec un MCP.
C'est pas un
Ouais,
squad.
ouais, à
C'est ça, en fait,
voir.
t'as juste besoin d'un daemon. T'as juste besoin d'un daemon. C'est un peu ça.
Ouais.
Comme Gastown, le workflow d'orchestration de Yegi, bah c'est ça en fait. Il a un daemon qui ping les LLM de manière régulière.
Bah, on peut parler de ma petite expérimentation d'hier, si vous voulez.
Ouais, vas-y.
Parce que c'était le même film. Alors,
C'est
Glass Castan,
ça.
j'avais essayé.
C'est ça.
J'avais essayé, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, pour moi, j'avais jamais fait vraiment beaucoup de swarm d'agents. J'avais testé, comme tout le monde, des loops avec, comment ça s'appelle,
Match.
High Trigger au départ, là, ouais. Mais c'est très rigide. Et
Ouais.
du coup, je mettais plutôt. Enfin, je l'utilisais par exemple pour les reviews. Les reviews, on utilise beaucoup le GitHub Workflow, là, le reviewer
Ouais.
d'Anthropic là-dedans.
Ouais.
Et en
Qui
fait,
coûte
au
méga
départ,
cher.
l'idée, c'était de dire, j'en avais marre en fait de faire des copier-coller, des feedbacks qui sont à chaque fois très pertinents, les trucs que je n'arrivais pas à checker. Et comme je regarde de moins en moins le code et plus finalement l'output, guillemets, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qui à l'intérieur en fait m'intéresse pas trop. Je m'étais dit, bon, on va looper dessus. Et ça marchait pas mal pendant un certain temps. Après, on est passé sur, on a fait un peu de codex et tout en local aussi. Mais par contre, pour des sujets un peu plus complexes, j'avais essayé Gaston et j'avais trouvé que ça portait bien son nom. C'était vraiment l'usine à gaz pour le coup.
Ah
C'était vraiment
ouais,
trop
mais c'est un
compliqué à
délire.
cette heure.
C'est un
Et
délire.
j'avais lâché l'affaire. J'avais passé un samedi entier.
Non, c'est trop
Mais
bien comme
je
langue.
trouvais le pattern intéressant. Et j'avais vu une interview du mec sur YouTube et qu'il expliquait en fait que lui, il allait un peu voir tous les gros acteurs, je sais pas, du mec qui vient, mais enfin bref. Il allait voir les Anthropic et OpenAI, il essaie de leur vendre l'idée parce qu'il dit c'est exactement ce qu'il faut faire. Exactement ce qu'il faut. Et donc là, il y a le nouveau flag qui a été lancé par Anthropic, là, qui permet de faire de l'agent swarm. Et donc hier, j'ai essayé. Donc nous, on a une commande qu'on utilise beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de faire du code en mode complètement totalement automatisé, c'est-à-dire d'arrêter de faire du code. Nous, on fait la même chose sur des analyses de données. On en fait beaucoup, beaucoup comme ça. C'est très intéressant. Donc, on a des agents qui font du fact-checking de données, on a des trucs comme ça, etc. Et on fait beaucoup de, on va dire, d'itérations, mais avec le métier. Donc, quand je dis une analyse de données, c'est des fois des markdowns, enfin pardon, des fichiers Notion qui sont assez longs. On teste une hypothèse, etc. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le lance, on fait un peu de prompt engineering, avec quelques différences sur, par exemple, plusieurs sessions Cloud Code. 1, 2, 3, avec différentes hypothèses, etc. Et après, on regarde les quatre outputs, par exemple. Et on essaye de regarder s'il n'y a pas eu un problème ou si la donnée a mal été interprétée. C'est un peu du gut feeling, mais on connaît la data et les métiers connaissent la data. Donc, en fait, on arrive quand même comme ça on va dire, à trouver des axes, en fait, où des fois on se dit, bah, tiens, là, il a peut-être un petit peu halluciné. Etc. Et là, c'est qu'on a, bah, j'ai utilisé cette même technique, finalement. Donc, nous, on utilise, pour le coup, c'est pas un workflow, mais on utilise la méthode du NIST, la méthode exploratoire de données, enfin un truc très basique sur comment on fait une bonne exploration de données. On a une skill là-dessus. Et là, en fait, je lui ai juste dit, bah voilà, tu vas créer un swarm d'agents. C'est du descriptif, hein, y a rien à faire. Hein. Tu dis, tu crées une team, t'actives le flag d'abord. Et moi, je lui ai demandé en fait déjà ce que tu vas faire. Donc, tu as un leader. Donc, là, c'est le truc qui est sur la gauche. Le leader, en fait, il a pris l'hypothèse. Et là, je lui ai demandé, par exemple, quand tu as des clients qui arrivent chez nous, ils font un formulaire de sign-up. Et en fait, il y a des patterns dedans qu'on essaie de checker en disant est-ce que quelqu'un qui a des enfants, il est plus, tu vois, ou moins amené à plus churner, etc. Tu vois, c'est des trucs un peu touchy. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plusieurs hypothèses comme ça, et on lui a demandé, bah, le leader, tu vas déjà essayer d'isoler plusieurs hypothèses. Après, tu vas créer un swarm avec quatre agents qui vont faire des analyses hein, sans le contexte initial. Ils vont y aller, ils vont tourner en mode complètement vraiment seul. En bout de chaîne, tu as un fact-checker, un data fact-checker, qui est un agent complètement, pareil, complètement seul, qui va fact-checker tes hypothèses, enfin tes conclusions. Et tu renvoies l'ensemble au leader, et lui, en fait, il wrap l'ensemble. Et il nous fait en fait il fait hypothèse contre hypothèse, il va crosser les hypothèses et il nous fait un gros fichier Notion dans lequel on peut continuer à itérer. Et bah écoutez, j'ai trouvé que c'était assez ça m'a un peu détruit le cerveau, j'ai trouvé que c'était incroyable. Bon, ça burn des tokens de ouf
Ouais.
par contre, mais c'est vraiment impressionnant à regarder et voir l'output. Ouais, je trouve ça intéressant. Moi, je l'ai fait sur la partie data analyse, mais on peut le faire sur du code. J'imagine que sur du code, ça doit être encore plus intéressant à regarder. Mais j'ai trouvé l'expérience sympa. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça m'a fait gagner énormément de temps. En tout cas, déjà, de ce côté-là.
C'est quoi la différence avec des sub-agents?
En fait, là, il en fait. Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence sur les sub-agents là, par rapport à
Là, ce que
ce
tu
que
vois,
tu
c'est juste que
peux
tu
dire
vois
tout à l'heure.
l'output des sub-agents exploser, quoi.
Ouais, en fait, là, ce qui était intéressant, c'est qu'il les a chaînés, il les a isolés, mais sinon, c'est le même principe, complètement vraiment.
Ah, tu vois
Et là,
leur,
on.
ah, tu vois leur, le tuyau, tu vois le chat de chaque sous-agent.
Tu vois le chat, ouais, tu peux
Ok.
interagir avec eux parce qu'ils peuvent même placer en mode plan, etc. Tu peux interagir avec eux s'il y a des questions à poser.
Ah, intéressant, trop
Ça
bien.
fait des sessions Claude, en fait, isolées, tu vois, sur la droite, là, tu les vois, là, toi, il y a une analyse d'intensité transactionnelle, il y en a une, c'est, tu vois, expectation analytic gap analysis, etc., etc.
Et
C'était
question,
assez rigolo, hein.
l'output, du coup, tu as dit que c'était un Notion.
Bah moi c'est parce que en fait quand on a une slash commande qui à la fin produit toujours une Notion.
Ouais, mais du coup, le Notion, t'as eu envie de le lire ou pas?
Ouais j'ai lu ouais.
Tu l'as lu,
C'était.
ok.
Ouais, alors je lis beaucoup plus qu'avant, c'est ça qui est
Ouais.
particulier. Je produis moins de SQL. Alors, il y a le SQL d'ailleurs à la fin, parce qu'on l'a bien élevé, à la fin on lui a demandé toujours de mettre le SQL.
Ouais.
Il y a des trucs d'ailleurs des fois où il utilise les mauvaises informations, mais là tu vois hier c'était vraiment assez probant. Il utilisait bien la sémantique layer, il est bien allé chercher les trucs au bon endroit. Le data warehouse a bien été utilisé, il a bien suivi les règles. Donc c'était un crash test assez intéressant. Je sais pas si je le refais tous les jours, mais peut-être en fin de journée pour quand j'ai des tokens qui restent, quand j'ai plus rien à faire, le lancer sur des pistes, ça peut être intéressant.
Trop serré.
J'ai toujours trouvé la fin de journée où t'as le cerveau qui est cramé, de lancer des trucs en mode j'ai plus envie d'y penser, j'ai plus l'énergie de revoir le plan. En général, ça finit le lendemain matin, je fais oh non. En général, le let it go le soir, faut que ce soit vraiment isolé, quoi, ce que j'ai remarqué.
Mais ouais, j'ai un problème avec ça. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes. C'est cette image de la slot machine. En fait, tu peux jamais t'arrêter. Heureusement d'ailleurs que les tokens ont une fin, parce que bon, des fois, je pense que je resterai trop longtemps encore à bosser.
Bah c'est ça le point qu'il avait là dans son interview. Faut donner illimité de tokens, c'est pour que les gens travaillent de manière illimitée, non?
Bah, il y a peut-être un peu de ça. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo, donc c'est ludique en fait. Moi, personnellement, je trouve m'amuse beaucoup plus avant que maintenant que avant par rapport à. Faire du code, ça m'intéresse pas des masses. C'est pas un truc que j'ai jamais aimé. Donc j'aime bien, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt résoudre les problèmes, tu vois, métier, craquer un truc. Ça m'intéresse plus. Mais bon, chacun voit à midi à sa porte. Mais je
Après,
trouve
ce
que ouais,
qui
je suis très fatigué fin de journée. Je sais pas pour vous, mais des fois, pas la
Pareil.
même fatigue qu'avant. Et je fais beaucoup de siestes.
Et du coup, c'est pas un peu. Enfin, moi, je trouve, ok, c'est trop bien, on peut faire trop de trucs et tout. Mais après, quand tu te dis que tout le monde a accès à la même intelligence,
Ouais.
c'est pas un peu flippant aussi, dans le sens où tu dis, ouais, ok, enfin, quand tu regardes toi, ta situation micro, c'est trop cool, tu fais des progrès, etc. Puis après, tu te relèves, tu dis, ah ouais, mais il y a des millions de personnes des milliards de personnes sur la planète qui ont exactement accès au même outil. Qu'est-ce qui
Ouais.
fait que
Et
la
surtout
vie
qu'on
entre les
privatise,
deux.
on privatise aussi un peu cette connaissance. Ça, c'est un truc que je me suis dit, c'est qu'avant, quand il y avait Stack Overflow, ou les blogs où tu partageais les trucs, c'était un peu en open. Et donc, en fait, toute cette connaissance de quand j'avais un bug, quand j'avais un problème, je le cherchais sur Internet, et c'était build en open. Maintenant, avec les agents, tu privatises et tu gatekeep tout ce truc-là, parce qu'en fait, quand tu résous un bug, ça part dans les données d'entraînement d'Anthropic, ça part dans les données d'entraînement d'OpenAI, et on n'y a plus accès en tant que société globale, quoi.
Bah, d'où l'intérêt, tu vois, le problème de la constitution, quoi. On
Bah
met le
faut que
parallèle. Un mec qui est en Arabie Saoudite aujourd'hui, il utilise Anthropique, les valeurs sont pas les mêmes, tu vois. Enfin, en plus de faire partir le truc, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes éthiques, il y a des problèmes effectivement de captation de cette connaissance, comme tu dis. Il réentraîne un modèle là-dessus. Puis il va y avoir les destructions de boulot derrière, enfin de job derrière.
ouais.
Après, la
Vous y
réalité, c'est que
croyez
je pense
non,
qu'on
ça
va
va
tout
générer
simplement.
plus. Vous y croyez au discours qui dit qu'il y aura plus de jobs de créer?
Pense
Tu vas
pas.
dire.
Je pense qu'il y a
Pense pas.
plus
Hein.
de, il va y avoir des jobs créés dans tout ce qui n'est pas informatique, enfin dans tout ce qui n'est pas lié à un ordinateur. Genre juste ce qu'il y a dans un ordinateur, j'ai du mal à voir comment on peut faire plus que ce qu'on fait déjà maintenant.
Est-ce qu'il y aura moins de jobs du coup?
Par la tech, oui, tu vois. Moi, je
Vous
prends
avez vu ce.
mon cas, hein, on est plus en contraction économique,
Ouais.
donc on réduit la taille, le volume de la team globalement. À une époque, j'avais une équipe de 6 personnes, on est deux maintenant. Et on n'a jamais autant shippé. Parce qu'en fait, on code plus. On est concentré sur l'essentiel, tu vois. J'ai l'impression que ce que moi je suis en train de vivre, beaucoup de boîtes vont le vivre. Mais après, il y a des boîtes qui ne sont pas comme ça. Tu vois, je discutais avec un ancien collègue qui est dans le luxe. Eux, ils sont encore en train de dire non, pas d'agent. On est encore là pour la beauté du craft, etc. Mais ça va tenir combien de temps encore, tu vois?
Ouais, ça, 5-6 ans, c'est fini. 5-10 ans,
Bah,
peut-être.
quand ça sera un avantage concurrentiel que les autres auront et que eux n'auront pas, même si c'est une marque de luxe très reconnue, je pense que la mettra sera vite. Hein.
Est-ce que, du coup, vous êtes passé de 6 à 2? Est-ce que, à ton avis, vous pouvez passer de 2 à 0 d'ici un an? Est-ce que
C'est
ton
possible,
CEO peut
ouais.
tout faire ou pas? C'est quoi
C'est
ton feeling par
possible.
rapport à ça?
Bah, aujourd'hui, il y a quand même de la friction. Moi, je pense que c'est. J'avais écrit un truc là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, bah, c'était avant-hier. Ouais, pour moi, le plan devient le produit, quoi.
Ouais.
Le produit, c'est plus le code. Ce que tu planifies.
Ouais, c'est ce que disait Julien, c'est les specs, quoi.
Ouais, c'est les specs. Mais même les specs, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de specs.
Ouais, mais
C'est
ça dépend ce que
à quoi
t'appelles
tu as besoin de
spec.
le faire. Tu fais un
Enfin,
prototype. Aujourd'hui, tu vas
ouais.
dans Lovable et tu craftes ton truc.
Mais prototype, c'est une spec. C'est
Le
juste une spec
prototype, c'est
as
un spec.
visual.
Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Est-ce qu'ils vont être
Donc.
meilleurs que nous à faire des specs, peut-être? Enfin, ils vont être, on voit comme si c'était personnifié, mais est-ce
Ben
que
ça, c'est
c'est.
une autre question. Et ben, je pense que c'est là où, tu vois, le gars, là, Lazare, là, le mec, là, le professional vehicle que j'avais vu, là, de Lovable, son interview était super intéressante, encore sur le même podcast, la ligne, où en gros, lui, il part du principe que les soft skills, en fait, vont prendre le dessus. Et il serait pas étonné que les. En fait, il y a une espèce de revival, en tout cas, d'un intérêt, tu sais, de toutes les compétences qui peuvent être liées à un, je sais pas, un goût artistique, tu vois, par exemple. C'est ce genre de compétences, tu vois, qu'on disait, je ne sais pas moi, mon temps, quand j'étais jeune, c'était soit moi je voulais faire de l'art, tu vois, je voulais aller. Ou j'étais bon, j'aimais bien les, tu vois, bidouiller les ordinateurs. Mais en gros, on m'a dit, bah, écoute, t'es bon en maths, donc va faire une école d'ingénieur. Parce que ça rapporte de l'argent. Je pense que si j'avais suivi mon cœur, je serais parti de l'autre côté. Mais maintenant, je pense que le goût, tu vois, la curiosité, l'empathie, tu vois, tous ces trucs-là que l'agent ne peut pas régénérer, et encore même ça, il faudra peut-être le challenger dans quelques temps. Je pense que c'est quelque chose qui va avoir de plus en plus de valeur. Et la curiosité, ouais, tu vois, l'inventivité, l'abnégation, j'en sais rien, tous ces trucs en fait qu'on ne peut jamais juger, tu vois, autrement que quand tu travailles avec quelqu'un.
Sur les specs, là, cette semaine avec Claire, on a fait une semaine où on a essayé de planifier ce qu'on voulait dans Nao sur l'agent. Et du coup, on a beaucoup posé, on a fait beaucoup sur papier des choses et tout. Et une fois qu'on était un peu aligné sur les trucs qu'on avait envie de faire, on recordait nos sessions où on parlait et on laissait l'agent transcribe et ensuite, à partir de ce qu'on avait parlé, essayer de le mettre dans des issues et spécifier les choses, quoi. Franchement, c'est bien, mais c'est il fait des trucs qui servent à rien. Et franchement, quand il nous écrivait des issues à la fin, on enlevait, je pense, 40% des trucs qu'il écrivait parce qu'il écrivait des trucs qui servaient à rien. Soit il n'avait pas compris, soit il inférait des choses qui n'étaient pas intéressantes, soit il. Et en fait, du coup, il capture pas. Je trouve qu'il y a un truc qui est horrible, c'est qu'il. Vu qu'il écrit plein de choses, il capture pas vraiment le seul truc qui est essentiel, où il n'est pas très fort sur être synthétique. Et du coup, tu
Non, mais
vires
ouais.
beaucoup de lignes qui servent à rien, quoi.
Est-ce que c'est l'intention qu'il n'arrivait pas à capter, ou est-ce que c'est le. Parce qu'il y a toujours le sous-jacent, tu vois, il n'est pas dans ta tête, hein, mais.
Non, l'intention, il y a des trucs d'intention, il captait bien. C'est plutôt il a tendance à rajouter des trucs qui servent à rien. Enfin, des trucs qui tu veux pas mettre dans la spec, tu vois. Genre dire dans la spec, you have to be careful about race conditions. Bon, je m'en fous que ça soit écrit dans la spec. Enfin, genre.
Tout le monde s'en fout des race conditions. C'est bien connu. Je ne sais pas, toi, ton avis, Julien, là-dessus, sur le.
Sur les specs ou sur le. Moi, je pense que ce que tu décrivais, Christophe, c'est assez intéressant dans le sens où tu es dans le monde physique et puis après on transcrit des specs dans le monde digital, puis après ça se fait tout seul en gros. Et probablement ça va franchir ce gap où on va pouvoir interagir dans le monde physique avec déjà un agent qui va déjà nous aider à faire les specs. Dans le sens, là j'ai un whiteboard derrière moi et probablement ce qui sera intéressant, ça c'est Benoît Papot qui m'en a parlé, un projet qui fait ça, mais d'avoir une sorte de projection dessus où je peux interagir avec l'IA déjà là. Et en fait, ça me fait plein de potes parce que plein de portes, ça permet déjà de raffiner l'intention déjà soit dans le monde physique, vérifier qu'il a bien compris, avoir des questions, discuter avec lui comme ça. Et surtout, ça ouvre le développement informatique à n'importe qui. Et en fait, tu peux imaginer, je sais pas, un boulanger prendre un whiteboard, dessiner l'application qu'il veut. Et en fait, l'agent qui lit le whiteboard et qui déjà a fait les specs, etc. Ça, on n'est pas si loin que ça, quoi.
Ah, c'est les world models, hein. C'est un peu le. Je sais pas si vous aviez suivi ce
Franchement,
truc-là.
c'est un peu différent.
Ouais, il y a un peu de ça, non?
Bah, je pense que c'est surtout l'interaction. Là, aujourd'hui, notre rôle en tant que tech, c'est de, voilà, tu as un besoin métier, tu comprends, tu le transcris, tu fais une spec, en gros. Et puis ça, si le métier, demain, il arrive à exprimer d'une certaine manière son besoin à un système de développement comme on a aujourd'hui, bah...
Ouais, on en revient au problème dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de passer de 2 à 0.
Ah oui, exactement.
Ouais.
Et pas bah, moi, ce qui me fait... Bah, j'ai des hauts, des bas, quoi. Des hauts, assez trop, on peut faire plein de trucs. Et des bas, bah là, c'est quand je me dis ça. Le bas, c'est à quoi je vais servir demain, quoi. Et je pense que en tant que développeur, si on se demande à quoi je vais servir demain, c'est-à-dire que derrière, il y a plein de gens qui vont se poser la question aussi d'ici quelques mois.
Je pense que c'est déjà le cas, hein. Je sais plus, j'ai vu un truc, mais c'était ouais, les designers en ce moment, je pense que c'est un peu compliqué. Tout
Ouais,
ce
quand tu
qui est
vois
rôle,
Figma, quand tu vois la courbe de Figma.
ouais, vrai, Figma, ouais. Je pensais à ça directement. Mais, ouais. Et puis même les rôles de management, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de rôles qui se fusionnent. Moi, j'ai jamais été à travailler sur d'autres périmètres métiers. Avant, c'était très segmenté, mais nous, maintenant qu'on est plus petit, c'était différent. Mais je sais pas, j'en garde mes yeux partout, en fait. Enfin, je mets mes yeux partout. Je pense que à terme, t'auras des, tu vois, des deux gros types de rôles, plutôt des builders, tu vois, des gens qui construisent tu vois, des solutions à des problèmes, et puis des gens qui sont plutôt spécialisés, tu vois, pour peut-être, tu vois, hacker la croissance, etc. Puis ça se limitera à ça, quoi. Demain, tu pourrais imaginer que ton CEO, il code une appli juste en comptant, et puis il pousse une feature en prod, et puis voilà, quoi.
J'aimerais bien discuter avec toi si tu as déjà réfléchi IA fois enfin cross art, mais probablement on peut regarder ça pour plus tard. Je pense qu'il y a
Ouais,
plein
pour
de
une autre
sujets
session,
trop
c'est
intéressants.
stylé.
Ça m'intéresserait énormément. Et alors, surtout que oui, bah, je parlais au départ Urban Sketchers, c'est des sujets qui sont très intéressants. Et j'avais écrit un billet de blog, moi, sur le passage à la photographie, qui était très intéressant. C'était plutôt sur tout ce qui était backslash, tu sais, sur la manière dont les gens le percevaient. Et ouais, on a beaucoup de débats là-dessus, parce que nous, ouais, on fait beaucoup de dessins sur le vif. Urban Sketching, c'est ça, dans
Ouais.
la rue. Et t'as des gens en fait qui mixent ça avec de l'IA, etc. C'est très mal vu, mais ouais, on en reparlait. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est plus là, le mindset, la compétence, tu vois, la façon de penser. Et j'avais écrit un truc aussi sur le laisser-aller, ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est un truc
Ouais.
qui est... Dans la peinture, par exemple, tu as la théorie, et puis après, quand tu connais la théorie, quand tu l'as ingérée, tu peux te lâcher, tu vois. Et tu peux te lâcher, aller très loin, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, moi, que je vis de plus en plus avec le code, parce qu'en fait, tu laisses aller.
Ah, c'est
Ne plus
clair.
regarder le code qui est produit, c'est du lâcher-prise. Et il y a des gens qui ont beaucoup de mal à le faire, et je pense que c'est normal, parce que c'est, comme tu dis, qu'est-ce que je ferai demain? J'étais tellement fier, finalement, des compétences acquises, donc il y a un peu d'ego aussi derrière, tu vois,
Ouais, beaucoup d'ego.
ouais, beaucoup d'ego. Mais bon, ouais, gros débat.
Trop intéressant.
Bon.
Ok. Bon, bah on peut wrap up. Merci à vous deux. C'était vraiment
Merci.
trop cool.